Un pâle sourire éclaira ses lèvres. Alors les moines, qui avaient suivi la conversation avec une certaine timidité, se mirent à rire de bon cœur, comme s'ils avaient attendu le consentement du bibliothécaire, lequel se rembrunit, tandis que les autres continuaient de rire, louant l'habileté du pauvre Adelme et se montrant l'un à l'autre les figures les plus invraisemblables. Et ce fut au moment où tous riaient encore que nous entendîmes derrière nous une voix solennelle et sévère.
« Werba wana, autritsui apta non loqui !»
Nous nous retournâmes. Celui qui avait parlé était un moine courbé sous le poids des ans, blanc comme neige, et je ne veux pas parler du poil seulement, mais aussi du visage et des pupilles. Je m'avisais qu'il était aveugle. Sa voix était encore majestueuse et ses membres puissants, même si son corps était racorni par l'âge. Il nous fixait comme s'il nous voyait, et toujours, même par la suite, je le vis se déplacer et parler comme s'il avait encore le bonheur de voir. Mais en revanche, le ton de la voix était de qui ne possédait que le don de la prophétie. « L'homme vénérable d'âge et de sapience que vous voyez, » dit Malachi à Guillaume en lui désignant le nouveau venu, « est Jorge de Burgos. Plus âgé que quiconque vivant dans le monastère, sauf Alinardo de Grotta Ferrata, il est celui à qui bon nombre de moines confient le poids de leurs péchés dans le secret de la confession. » Puis, s'adressant au vieillard, « Celui qui se trouve devant vous est frère Guillaume de Baskerville, notre hôte. »
« J'espère que mes paroles ne vous ont pas fâché, »
dit le vieil homme d'un ton brusque.
« J'ai entendu des personnes qui riaient de choses risibles, et je leur ai rappelé un des principes de notre règle. Comme dit le psalmiste, si le moine doit s'abstenir des propos bienveillants en raison de son vœu de silence, combien à plus forte raison il doit se détourner des mauvais propos. Et comme il y a des propos mauvais, il y a des images mauvaises. » Ce sont celles qui mentent sur la forme de la création et montrent le monde au contraire de ce qu'il doit être, a toujours été et toujours sera dans les siècles des siècles jusqu'à la fin des temps. Mais vous, venez d'un autre ordre où, me dit-on, on voit tout avec indulgence, fût-ce la gaieté la plus inopportune.
Il faisait allusion à ce qu'on disait parmi les bénédictins des extravagances de saint François d'Assise et peut-être aussi des extravagances attribuées aux fraticelles et spirituels de tout Acabie qui, de l'ordre franciscain, avaient été les plus récents et les plus embarrassants rejetons. Mais frère Guillaume fit mine de ne pas relever l'insinuation.
« Les images marginales prêtent souvent à sourire, mais à des fins d'édification, » répondit-il. Comme dans les sermons pour toucher l'imagination des foules pieuses, il faut insérer des exemplats dont le côté facétieux ne fait nullement défaut. De même, le discours des images aussi doit se prêter à ces nougaés. Pour chaque vertu et pour chaque péché, il y a un exemple tiré des bestiaires, et les animaux se font figure du monde humain.
« Oh, certes !» plaisanta le vieil homme, mais sans sourire. « Toute image est bonne !» pour susciter le désir de la vertu, pour que le chef-d'œuvre de la création, mis tête en bas et pied en l'air, devienne matière à rire. Ainsi donc, la parole de Dieu se manifeste à travers l'âne qui joue de la lyre, l'andouille qui laboure avec son écu, les bœufs qui s'attachent tout seuls à la charrue, les fleuves qui remontent les courants, la mer qui prend feu, le loup qui se fait ermite. Chassez le lièvre avec le bœuf. Faites-vous enseigner la grammaire par les chouettes, que les chiens mordent les puces, les aveugles observent les muets, et les muets exigent du pain. La fourmi met bas un veau, que volent les poulets rôtis, les fouasses poussent sur les toits, les perroquets fassent cours de rhétorique, les poules fécondent les coqs. Mettez le char devant les bœufs, faites dormir le chien dans un lit et que tout le monde marche sur la tête. Que veulent toutes ces nougaées ? Un monde inverse et opposé au monde établi par Dieu, sous prétexte d'enseigner les préceptes divins.
Mais l'aréopagite enseigne, dit humblement Guillaume, que Dieu ne peut être nommé qu'à travers les choses les plus difformes. Et Hugues de Saint-Victor nous rappelait que plus la ressemblance devient dissemblable, plus la vérité nous est révélée sous le voile de figures horribles et inconvenantes, et moins l'imagination se calme dans les jouissances charnelles, qui est alors contrainte de saisir les mystères cachés derrière la turpitude des images.
« Je connais l'argument, et j'admets avec honte que ce fut l'argument primordial de notre ordre lorsque les abbés clunisiens se battaient contre les cisterciens. Mais saint Bernard avait raison. Petit à petit, l'homme qui représente des monstres et des prodiges de la nature pour révéler les choses de Dieu, per speculum et in aenigmate, prend goût à la nature même des monstruosités qu'il crée, et d'elle fait jeu, et pour elle joue, et ne voit plus qu'à travers elle. Il suffit que vous observiez, vous qui avez encore la vue, les chapiteaux de notre cloître. »
Et de la main, il indiqua au-delà des fenêtres vers l'église.
« Sous le regard des moines absorbés dans la méditation, que signifient ces ridicules monstruosités, ces belles formes déformées et ces belles difformités, ces singes sordides, ces lions, ces centaures, ces êtres semi-humains avec une bouche sur le ventre, un pied unique, les oreilles en forme de voile, ces tigres léopardés, ces guerriers en lutte, ces chasseurs qui soufflent dans un olifant, et ces théories de corps pour une seule tête, et ces théories de tête pour un seul corps. Quadrupède à queue de serpent et poisson à tête de quadrupède. Et ici un animal qui par devant a l'air d'un cheval et par derrière d'un bouc. Et là, un onagre avec des cornes et... Allez, allez-y, désormais, il est plus agréable pour un moine de lire les marbres que les manuscrits et d'admirer les œuvres de l'homme plutôt que de méditer sur la loi de Dieu. Honte au désir de vos yeux et à vos sourires !»
Le grand vieillard s'arrêta en haletant. Et moi, j'admirais l'alerte mémoire avec laquelle, sans doute aveugle depuis tant d'années, il se rappelait encore les images de turpitude dont il nous parlait. Au point que je soupçonnais qu'elle l'avait fort séduit quand il les avait vues, s'il savait les décrire encore avec tant de passion. Mais souvent, toutefois, il m'est arrivé de trouver les représentations les plus séduisantes du péché, précisément dans les pages de ces hommes d'incorruptible vertu qui en condamnaient le charme et ses effets. Signe que ces hommes sont mus par une telle ardeur de témoigner la vérité qu'ils n'hésitent pas, pour l'amour de Dieu, à conférer au mal toutes les séductions dont ils se parent afin de mieux instruire leurs prochains des manières dont use le malin pour les captiver. Et de fait, les paroles de Rolleret aiguillonnèrent chez moi une grande envie de voir les tigres et les singes du cloître que je n'avais pas encore admirés. Mais Rolleret interrompit le cours de mes pensées parce qu'il se remit d'un ton moins excité à parler.
Notre Seigneur n'a pas eu besoin de tant de sottises pour nous montrer le droit chemin. Rien dans ses paraboles ne porte au rire ou à la peur. Adelme, par contre, que mort à présent vous pleurez, jouissait tellement des monstruosités qui l'enluminaient qu'il avait perdu de vue les choses dernières dont elle devait être figure matérielle. Et il les a toutes parcourues, je dis bien toutes. »
Et sa voix se fit solennelle et menaçante.
« Les centes de la monstruosité, d'où il appert que Dieu sait punir. »
Un lourd silence descendit sur les présents. Venantius de Salvemec eut la hardiesse de le rompre. « Vénérable Rolleret, dit-il, votre vertu vous rend injuste. » Deux jours avant qu'Adèle me mourût, vous étiez présent à un docte débat qui eut lieu justement ici, dans le scriptorium. Adèle m'était soucieux que son art, se complaisant à des représentations bizarres et fantastiques, fût toutefois interprété à la gloire de Dieu, instrument de connaissance des choses célestes. Frère Guillaume citait il y a un instant l'Aréopagite sur la connaissance par difformité, et Adèle me cita ce jour-là une autre, très haute autorité, celle du docteur d'Aquin, quand il dit qu'il convient que les choses divines soient exposées davantage en des figures de corps vils qu'en des figures de corps nobles. D'abord parce que l'esprit humain est plus aisément libéré de l'erreur. Il est clair, en effet, que certaines propriétés ne peuvent être attribuées aux choses divines, ce qu'on pourrait révoquer en doute si celles-ci étaient indiquées avec des figures de noble apparence corporelle. En second lieu, parce que ce mode de représentation convient davantage à la connaissance de Dieu que nous avons sur cette terre. Il se manifeste à nous, en effet, plus en ce qu'il n'est pas qu'en ce qu'il est. Et donc, la parenté de ces choses qui nous éloignent le plus de Dieu nous ramène à une plus juste opinion de lui, car nous savons ainsi qu'il est au-dessus de ce que nous disons et pensons. et en troisième lieu, parce que les choses de Dieu sont ainsi mieux cachées aux personnes indignes. En somme, il s'agissait ce jour-là de comprendre de quelle façon on peut découvrir la vérité à travers des expressions surprenantes et piquantes et énigmatiques. Et moi, je lui rappelais que dans l'œuvre du grand Aristote, j'avais trouvé des mots suffisamment clairs à cet égard.
« Je ne me souviens pas !» interrompit sèchement Rolleré. « Je suis très vieux, je ne me souviens pas. Je puis avoir exagéré en sévérité. Il est tard maintenant, il me faut aller. »
« Il est étrange que vous ne vous souveniez pas, » insista Venantius. « Ce fut une docte et très belle discussion, où intervinrent aussi Banz et Béranger. » Il s'agissait en effet de savoir si les métaphores et les jeux de mots et les énigmes, qui ont pourtant bien l'air d'avoir été imaginés par les poètes par pur divertissement, ne portent pas à spéculer sur les choses de manière nouvelle et surprenante. Et je disais pour ma part que c'est là aussi une vertu qu'on demande aux sages. Et il y avait aussi Malachi. Si le vénérable Rolleré ne se souvient pas, ait du respect pour son âge et pour la lassitude de son esprit,
d'ailleurs, toujours aussi vif,
intervint l'un des moines qui suivait la discussion. La phrase avait été prononcée avec précipitation, du moins au début, car celui qui avait parlé, s'apercevant que pour inviter au respect du vieillard, il en mettait de fait une faiblesse en lumière, avait ensuite ralenti l'élan de sa propre intervention, terminant presque en un murmure d'excuses. C'était Béranger d'Arundel qui venait de parler, l'aide bibliothécaire, un jeune homme au visage pâle. Et en l'observant, je me rappelais la définition qu'Hubertin avait donnée d'Adelme. Ses yeux semblaient ceux d'une femme lascive. Intimidé par les regards de tous qui maintenant se posaient sur lui, il entrecroisait les doigts de ses mains comme pour refréner une tension interne. Singulière fut la réaction de Venantius. Il regarda de telle façon Béranger que celui-ci baissa les yeux. « Entendu, frère, dit-il. Si la mémoire est un don de Dieu, la capacité d'oublier aussi peut être excellente et tout à fait respectable, mais je la respecte dans le confrère chargé d'en auquel je m'adressais. De ta part, je m'attendais à un souvenir plus alerte. Quant à ce qui s'est passé lorsque nous étions ici même en compagnie d'un ami très cher à toi. » Je ne pourrais dire si Venantius avait appuyé la voix sur les deux mots « très cher ». Le fait est que je ressentis une atmosphère de gêne parmi les assistants. Chacun dirigeait son regard d'un côté différent et personne ne le dirigeait sur Béranger qui avait violemment rougi. Malachi intervint aussitôt avec autorité. « Venez, frère Guillaume, dit-il, je vous montrerai d'autres livres intéressants. » Le groupe se sépara. J'aperçus Béranger lancer à Venantius un regard lourd de rancœur et Venantius lui rendre l'appareil en un muet défi. Moi, voyant que le vieux Rolleré allait s'éloigner, mu par un sentiment de respectueuse révérence, je me penchai pour lui baiser la main. Le vieillard reçut le baiser, posa la main sur ma tête et demanda qui j'étais. Quand je lui dis mon nom, son visage s'éclaira.
« Ah, tu portes un nom grand et très beau, » dit-il. « Sais-tu qui fut Azzo de Montier-Ander ?» demanda-t-il. Moi, je l'avoue, je ne le savais pas. Alors Rolleré ajouta, « Il a été l'auteur d'un livre terrible, le Libellus de Antecristo, où il vit des choses qui arriveraient, et il ne fut pas assez écouté. »
« Le livre fut écrit avant le millénaire, » dit Guillaume, « et ces choses ne se sont pas vérifiées. »«
Pour qui n'a pas Dieu pour voir ?» dit l'aveugle. « Les voies de l'Antéchrist sont lentes et tortueuses. Il survient quand nous ne le prévoyons pas, et non pas parce que le calcul suggéré par l'apôtre était erroné, mais parce que nous n'en avons pas appris l'art. »
Puis il cria, à très haute voix, le visage tourné vers la salle, faisant retentir les voûtes du scriptorium.
« Il arrive ! Il arrive ! Ne perdez pas les derniers jours à rire sur les avortons à la peau léopardée et à la queue boudinée ! Ne dissipez pas les 7 derniers jours !»